du côté des ASSOS, l'association des Grecs anciens à nos jours, et puis une rencontre avec les associations locales de Florac et de son bassin de vie. Bonjour, chères auditrices et auditeurs. Qu'y a-t-il de commun à Florac entre, choisi au hasard, le club de foot, l'AMAS Les Bancelles, l'office du tourisme, le foyer rural et les Restos du cœur? On peut transposer cette liste au niveau national. Le point commun est bien sûr leur statut d'association. Dans cette nouvelle série d'émissions concernant les associations, donc, je vais me pencher sur leurs caractéristiques communes et d'abord sur leur histoire, qui ne date pas de la loi de 1901. Ensuite, j'étudierai leur diversité en France en tant que secteur d'activité, relations avec les pouvoirs publics, leurs salariés, quand il y en a, les bénévoles, etc. Et enfin, j'ai envie de rencontrer au niveau local quelques associations, petites ou plus importantes, en leur proposant un guide d'entretien, le même pour toutes, qui me permettra de dégager certains points communs et de montrer la vitalité des associations floracoises, que l'on connaît déjà. Autant vous dire tout de suite que je me suis fortement appuyée pour ces émissions sur un livre qui s'appelle « Sociologie du monde associatif » de Simon Cotin-Marx et qui date de 2019, collection Repère la découverte, et sur un article du Belge Bruno Hauten, « Contribution à une sociologie de l'association » de 2004, la revue Pensée plurielle. Mais avant de parler de la liberté d'association et de son histoire, je livre ces deux maximes à votre méditation. La première, d'Alexis de Tocqueville, « Cette même égalité qui rend l'individu indépendant de chacun de ses concitoyens en particulier, le livre isolé et sans défense à l'action du plus grand nombre. » Et puis, une maxime de Jules Ferry, « Rien de mauvais ne peut surgir de la liberté. » Et justement, d'abord quelques mots sur la liberté d'association. Cette liberté d'association n'est pas un droit qui date du XIXe siècle. Elle remonte au fondement de notre civilisation. Elle consiste en la possibilité de former ou de rejoindre un groupe pour une durée prolongée. C'est le droit de constituer, d'adhérer et de refuser d'adhérer d'ailleurs à une association. À chaque époque de l'histoire, les associations ou ceux qui y ressemblaient sous d'autres formes, les confréries, compagnonnages, fraternités, etc., firent l'histoire des associations. De la même façon, celles-ci ont eu leurs interdictions plus ou moins restrictives suivant le pouvoir et leur siècle. Mais toujours, elles ont réussi à renaître. De l'Antiquité à la fin de l'Ancien Régime, l'histoire des groupements d'entraide est en fait l'histoire d'une interminable coercition. Ça, c'est pas de moi, c'est de Bernard Gibault, auteur.
Ramener les caminats, c'est moi, je meurs de fouet. Appétit nouveau, amendez-vous, dame, 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 amendez-v
de nouvelles, allemand de nouvelles.
Navé. Mes beaux ballets, mes beaux ballets.
J'espère que vous avez apprécié les cris des marchands au XVIe siècle à Paris. Donc c'est une musique de Clément Jeannequin. Et alors maintenant, je vais vous parler de l'histoire de la liberté d'association et du mouvement associatif. Alors on va remonter au début du deuxième millénaire, avant Jésus-Christ. Les villes se développent en Occident, l'artisanat se renforce en milieu urbain, le besoin de s'associer est né de la volonté de partager des savoir-faire entre personnes exerçant un même métier. L'association volontaire est déjà connue dans l'Égypte antique avec les tailleurs de pierre des tombes royales, et puis dès la Grèce antique, donc c'est 4e siècle avant Jésus-Christ à peu près, sous le terme d'Etaeri, Etaireia, association d'amis de compagnons. Elle désigne un club aristocratique d'une cité. Alors on va passer quand même assez vite vu qu'on n'a pas quand même énormément de détails. Sous la Rome antique, connue sous le nom de collège, donc collegium en latin, et de corporation, l'association sert à des buts d'ordre public ou privé. Elle est reconnue par la loi et dotée de la personnalité légale. Et puis, au Moyen-Âge, les associations de bénévoles sont connues sous le nom de guildes. Depuis le Moyen-Âge occidental, en effet, de nombreuses formations sociales ont vu le jour, issues de la décision, plus ou moins librement consentie, de se regrouper en vue de poursuivre un but commun, dans le cadre de règles arrêtées également en commun par des partenaires qui se sont eux-mêmes choisis. C'est ce libre regroupement qui permet de distinguer une association d'autres ensembles. Vers le XIIe siècle apparaissent les guildes corporatives, communautés de métiers souhaitant définir leurs devoirs et faire valoir leurs droits aussi, tandis que d'autres s'organisent en confréries avec des buts commerciaux et philosophiques. Ces communautés étaient réglementées d'une façon plus ou moins homogène selon les villes. Et au fil du temps, les guildes, quelles qu'elles soient, vont gérer tous les aspects de la société médiévale. Et sous l'Ancien Régime, donc 16e-18e siècle, le terme « société » est consacré aux associations volontaires de personnes dont le but est commercial, et celui de communauté est dévolu aux autres. Il existe aussi de nombreuses associations récréatives ou clubs qui restent informelles et officieuses. Les communautés qui sont considérées comme d'intérêt public, comme les communautés professionnelles, les associations d'assistance, les communautés d'habitants, les confréries charitables, ont leur statut publié comme lettre patente, ce qui est l'équivalent actuel d'un décret pris en Conseil d'État. Donc c'était vraiment très bien organisé. Les monarchies successives se méfient de ces réseaux organisés susceptibles de constituer des contre-pouvoirs. L'attitude de l'autorité royale varie entre la mise sous tutelle des associations dont elle reconnaît l'utilité avec l'octroi de privilèges et la répression de celles susceptibles de représenter une menace. Je crois qu'on retrouve le problème actuellement. Pendant le siècle des Lumières, donc 18e siècle, 1715-1789, les économistes libéraux y voient un frein au développement. Les partisans des idées révolutionnaires les jugent anachroniques. L'esprit des Lumières amalgame les structures institutionnalisées archaïques et les associations d'entraide volontaire. Alors, je voudrais quand même dire un petit mot du contrat social de Rousseau. Il s'agit d'une construction philosophique, et non une expérience concrète. Pour Rousseau, c'est un double contrat. D'une part, chacun s'engage à faire partie de la société, donc c'est une sorte d'aliénation volontaire, un engagement envers soi-même. Et d'autre part, chacun s'engage envers le tout formé par l'ensemble des associés, donc la volonté générale, et chacun se place sous l'autorité de cette même volonté générale. le peuple et l'unité des individus associés par le pacte. Donc le contrat social est un libre engagement par lequel l'homme renonce à la liberté absolue pour se soumettre aux règles instituées par la communauté et y trouve en échange une force commune qui défendra ses droits. Il me semble en fait que là on s'éloigne de l'idée d'association. Il n'y a plus d'autre part d'intermédiaire entre l'individu et l'État. Alors passons à la Révolution. Qu'est-ce qui définit l'œuvre de la Révolution au niveau des associations ? L'Assemblée nationale consacre d'abord pleinement le droit de s'assembler paisiblement et de former entre eux des sociétés libres à la charge d'observer les lois qui régissent tous les citoyens. Ça, c'est la loi du 21 août 1790, les sociétés libres. Avec l'abolition des privilèges qui suppriment les financements publics et avantages fiscaux, et suite à des troubles ouvriers et la montée des revendications salariales, l'Assemblée nationale dissout toutes les communautés religieuses, d'habitants, de métiers, les collèges, les hôpitaux, les confréries charitables, les congrégations qui étaient innombrables. Et d'autre part, elle interdit par le décret d'Allard, 2 et 17 mars 1791, et surtout la loi Le Chapelier, 14 juin 1791, elle interdit de reformer des associations d'ouvriers ou d'habitants pour défendre leurs intérêts collectifs. Je vais vous lire une partie du discours du député Le Chapelier du 14 juin 1791, donc qui est lui à l'origine de cette loi. Il doit sans doute être permis à tous les citoyens de s'assembler, mais il ne doit pas être permis aux citoyens de certaines professions de s'assembler pour leurs prétendus intérêts communs. Il n'y a plus de corporation dans l'État. Il n'y a plus que l'intérêt particulier de chaque individu et l'intérêt général. Il n'est permis à personne d'inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation. Les assemblées dont il s'agit ont présenté, pour obtenir l'autorisation de la municipalité, des motifs spéciaux. Elles se sont dites destinées à procurer des secours aux ouvriers de la même profession, malades ou sans travail. Ces caisses de secours ont paru utiles. Mais qu'on ne se méprenne pas sur cette assertion. C'est la nation. C'est aux officiers publics, en son nom, à fournir les travaux à ceux qui en ont besoin pour leur existence et de secours aux infirmes. Ces distributions particulières de secours, lorsqu'elles ne sont pas dangereuses par leur mauvaise administration, tendent au moins à faire renaître les corporations. Donc vous voyez que c'est quand même assez restrictif. De ce fait, la Révolution porte un coup de grâce au monde associatif, même si la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 évoque dans son article 2 la notion d'association. C'est pour parler d'association politique, dont le but est de conserver les droits naturels et imprescriptibles de l'homme. C'est pas du tout des associations d'intérêt privé, éducatif, culturel, charitable ou cultuel. D'ailleurs, ces dernières vont rapidement être proscrites. La production du lien social devient une affaire d'État. Il s'agissait pour les législateurs de mettre fin au rassemblement paysan et d'empêcher toute révolte ou grève.
Pai le mai le mari da me, que le più de chiù se le tortillo. Pai le mai le mari da me, faccio tre culo tour de dé. Pai le mai le mari da me, que le più de chiù se le tortillo. Pai le mai le mari da me, faccio tre culo tour de dé. Esce ue pa me marida, mere tu druduca fai le tundre. Esce ue pa me marida, mere tu druduca fai le cupa. Esce ue pa me marida, mere tu druduca fai le tundre. Esce ue pa me marida. Mere tu drudu ca fai le cupa. Pai le mai le mari da me, che le più dei trusse le tortillo. Pai le mai le mari da me, faccio tu culo tu de de. Pai le mai le mari da me, che le più dei trusse le tortillo. Pai le mai le mari da me, faccio tu culo tu de de. Esce ue pa me marida, mere tu drudu ca fai le tundre. Esce ue pa me marida, mere tu drudu ca fai le cupa. Esce ue pa me marida, mere tu drudu ca fai le tundre. Esce ue pa me marida, mere tu drudu ca fai le cupa. L'ame no, la nobe, la nobe, l'ame no, più zero no. L'ame no, la nobe, la nobe, l'ame no, più zero no. L'ame no, la nobe, la nobe, l'ame no, più zero no. L'ame no, la nobe, la nobe, l'ame no, più zero no. Era sottonde il sangue lì, per la balanza crepe fo. Era sottonde il sangue lì, per la menazza crepe fuori l'uomo non la nobile no per l'uomo non più zero no per l'uomo non la nobile no per l'uomo non più zero no per l'uomo non la nobile no per l'uomo non più zero no per l'uomo non la nobile no per l'uomo non più zero no e la sorprende Sanueri per la menazza crepe fuori la sorprende Sanueri per la menazza crepe fuori per la menazza crepe fuori
Alors, après cette musique de marche très tonique, de bal à la voix, nous allons passer au 19e siècle. Le 19e siècle est la reconquête de la liberté de s'associer. Avec le 19e siècle, le monde associatif se cristallise autour des thèmes du droit ouvrier et de la liberté d'expression. À partir de 1810, le Code pénal réglemente la liberté d'association. Nulle association de plus de 20 personnes ne pourra se former sans l'agrément du gouvernement et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société. Mais malgré la loi, les associations ouvrières, clubs politiques et sociétés secrètes se multiplient. En 1848, le décret du 28 juillet autorise les réunions des clubs et des associations ouvrières sur simple déclaration et publicité des séances et maintient l'interdiction des sociétés secrètes. Ces associations ouvrières préfigurent ce qui donnera naissance à des statuts distincts. Les syndicats d'une part, les mutuelles et puis un peu plus tard les coopératives. Alors avec le Second Empire, 1852-1870, comme chacun sait, le régime de l'autorisation préalable est rétabli. Par la suite, une succession de travaux parlementaires viennent assouplir les interdictions en place. En 1864, abolition du délit de coalition, autorisant ainsi les grèves sous conditions, quand même sous conditions. En 1867, reconnaissance des coopératives ouvrières. 1868, la loi distingue la différence entre le droit d'association et le droit de réunion et reconnaît ce dernier sans autorisation préalable tant que l'on n'y traite pas de questions religieuses ou politiques. Alors nous arrivons à la Troisième République qui a duré très longtemps, 1870-1940. À la fin du XIXe siècle, le régime répressif en vigueur est devenu inadapté. Un grand nombre d'organisations se sont développées malgré l'interdiction, sans que leurs objets constituent des menaces pour l'ordre public. L'accession au pouvoir des républicains, à partir de 1879, va permettre l'instauration des grandes libertés républicaines. La loi du 30 juin 1881 instaure la liberté de réunion sans autorisation, sur simple déclaration, tout en maintenant l'interdiction des clubs politiques. La loi du 22 mars 1884, dite loi Waldeck-Rousseau, autorise la constitution libre des syndicats professionnels et abroge ainsi définitivement la loi Le Chapelier. Le 1er avril 1898, la même loi s'étend aux associations de secours mutuels, les mutuelles. En 1899, Pierre Waldeck-Rousseau, donc le même que précédemment, qui était alors président du Conseil, ministre de l'Intérieur et des Cultes, dépose le projet de loi qui aboutira à la loi du 1er juillet 1901. Là, ça commence vraiment à nous concerner directement. Mais auparavant, entre 1870 et le début du XXe siècle, et dans un contexte de développement des droits sociaux, 33 propositions de loi seront déposées avant le vote final de la loi relative au contrat d'association. Et en fait, en 1900, l'Office du travail dénombre 45 148 associations en France. sans compter les associations politiques et religieuses. La loi, votée en 1901, au terme d'une longue bataille parlementaire, cette loi relative aux contrats d'association, cette loi consacre le droit à toute personne en mesure de contracter, de s'associer sans autorisation préalable. En faisant du droit de s'associer un contrat, la loi garantit que l'appartenance à une association reste tributaire du consentement de chacun. Les seules limites concernent un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement. Voici donc une citation du député Pierre Valdec-Rousset qui a apporté la loi. « L'homme ne peut rien faire en bien ou en mal qu'en s'associant. Il n'y a pas d'armure plus solide contre l'oppression, ni d'outil plus merveilleux pour les grandes œuvres. » En 1905, un régime spécifique est créé pour les associations religieuses par la loi de séparation des églises et de l'État. En raison de leur influence et de leur puissance, le Parlement ne souhaitait pas qu'un statut souple des associations soit utilisé par des congrégations. Il préfère les soumettre à l'autorisation préalable de création. C'est la raison pour laquelle un titre spécifique leur est consacré dans la loi. Je vais vous lire l'article 1 de cette loi du 1er juillet 1901, dont on parle beaucoup, mais on ne sait pas toujours ce qu'il y a dedans. Pour créer une association, celle-ci doit être composée d'au moins 2 personnes et ses statuts doivent être déclarés à la préfecture. Ce sont des organisations collectives de personnes et non de capitaux, ça c'est vraiment fondamental, qui décident librement d'unir leurs efforts dans un but déterminé et désintéressé. Ce caractère non lucratif se traduit par 3 exigences ou contraintes dans la gestion des associations. Aucun membre ne peut s'approprier une partie des actifs de celle-ci. Les bénéfices ne peuvent pas être partagés entre les membres. Aucun membre de la direction ne peut avoir un intérêt économique direct ou indirect au résultat de l'exploitation de l'association. C'est pourquoi les salariés sont très rarement et sous condition membres du conseil d'administration. Alors nous arrivons tranquillement au XXe siècle. Il y a eu plusieurs textes internationaux qui reconnaissent la liberté d'association. En 1948, l'Assemblée générale des Nations unies proclame dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 20, le droit de s'associer librement. En 1950, la Convention européenne des droits de l'homme consacre la liberté de réunion et d'association. En 1966, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantit le droit de s'associer librement. Bon, ça revient toujours un petit peu au même. En 1981, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples consacre la liberté d'association et condamne toute adhésion associative obligatoire comme une violation de ce droit fondamental sous réserve de l'obligation de solidarité. En 1990, la Convention internationale des droits de l'enfant consacre la liberté d'association des mineurs. Et enfin, en 1999, la Cour européenne des droits de l'homme condamne toute adhésion associative obligatoire comme étant contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Par la suite, la liberté d'association devient un droit constitutionnel reconnu par les traités internationaux. Alors, pour clore cette partie historique, donc cette première émission sur les associations, encore une phrase à méditer, cette fois de Vaclav Havel. Le rassemblement des citoyens dans des organisations, mouvements, associations, syndicats est une condition nécessaire au fonctionnement de toute société civilisée bien structurée.
Ce samedi soir, elle revenait de son usine, les bras chargés de billets bleus bien mérités, sous les regards concupiscents de ses copines. Le cœur joyeux vers son foyer, elle se hâtait. En la voyant, sa maman fut bien satisfaite. Elle lui dit, prenant son air des jours de fête, mets un chapeau, lave-toi les mains, faisons toilette. Ce soir, ma fille, nous allons bien nous amuser. J'ai fantaisie de mettre dans notre vie un petit grain de fantaisie.
Youpi, youpi.
Allons au ciné. Ma du quartier, ça serait folie de faire les frais d'une entrée, mais nous verrons la sortie.
Youpi, youpi.
C'est amusant de voir les gens qui en sortant ont l'air si tristes. Oh oh oh, si tristes. Oh oh, ce qu'on s'amuse en buvant une limonade. Oh là là, j'en suis malade. Cette semaine, y a pas eu d'heure supplémentaire. Ad comptable en lui faisant son relevé. Parbleu, elle a passé du temps près de sa mère. Malade après la limonade, comme vous savez. C'est samedi, elle est rentrée, l'humeur maussade. Puis lasse de donner ses soins à la malade. Elle lui a dit, je vais chercher de la pommade. Mais le seuil franchi, insoucieuse, elle a chanté. J'ai fantaisie de mettre dans mon envie un petit grain de fantaisie. Youpi, youpi, moi j'en ai marre. Je vais à la foire puisque ma mère est toujours alitée. Pourquoi pas en profiter? Youpi, youpi, la voilà donc sur un cochon qui tourne en rond. Quelle joie de vivre! Ha ha ha, les nivres! Y'a Albert qui est derrière, qui la serre, et elle le laisse faire, ouais. Cette semaine, y'a pas eu de paye, sa mère est morte. Depuis mardi qu'elle lui a fermé les yeux. De leur logis, seul Albert a franchi la porte pour la remonter et pour lui présenter ses voeux. À son usine, on a mis une intérimaire pour lui laisser tout le loisir d'enterrer mère. Et à Albert qui l'accompagne au cimetière. Quand le corbillard passe près de la gare, elle déclare: j'ai fantaisie de mettre dans notre vie un petit grain de fantaisie. Youpi, youpi, à 16h16 y'a un express pour cette opesse. Faut qu'on se presse, j'ai du pèse. J'dis ça pour te mettre à l'aise. Youpi, youpi, les voilà donc partis tous deux pour d'autres cieux. Ah, quelle fille maman. Ah, quelle fille maman. Puis vient le bel Armand, puis encore d'autres amants, puis un contrat au Soudan. Flan.